Hiranote Ramotar, président de la République du Guyana. J'aimerais prier le protocole de bien vouloir escorter son Excellence.
On behalf of the General Assembly,
Au nom de l'Assemblée générale, j'accueille le président de la République du Guyane et je l'invite à intervenir maintenant devant l'Assemblée. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Ma délégation et moi-même vous félicitons chaleureusement pour votre élection à la haute fonction de président de l'Assemblée générale. Je vous rends hommage comme étant un fils éminent de notre communauté des Caraïbes et vous pouvez compter sur l'appui infaillible de Guyana pour la mise en œuvre heureuse de vos tâches importantes. Permettez-moi de rendre hommage à votre prédécesseur, Son Excellence Vuk Yeremich, pour le service précieux qu'il a rendu à l'organisation. Je saisis cette occasion pour réitérer notre appréciation à Son Excellence M. Ban Ki-moon, le secrétaire général, de sa direction et de son dévouement aux Nations Unies. Monsieur le Président, je saisis également l'occasion d'exprimer notre solidarité et toutes nos condoléances les plus profondes au gouvernement et au peuple du Kenya lors de récentes attaques terroristes qui ont conduit à la perte en vie humaine et une grande souffrance pour le peuple de cette nation. Monsieur le Président, il ne nous reste que 800 jours pour la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement et pour lancer un programme de développement de l'après-2015. Il est de ce fait approprié que vous ayez invité cette Assemblée à se concentrer sur le thème « Le programme de développement de l'après-2015, camper le décor ». Un examen de notre expérience à ce jour révélera que le monde, dans son ensemble, a connu des progrès importants pour la mise en œuvre des objectifs millénaires du développement. Toutefois, les perspectives varient considérablement au sein et entre les pays et les régions, et un grand nombre de pays risquent de ne pas parvenir à la réalisation de ces objectifs. Les difficultés dans les domaines de la santé et de l'éducation menacent les gains durement acquis en matière socio-économique. Aujourd'hui, plus d'un milliard de personnes vivent dans la pauvreté extrême et une personne sur huit sur la planète souffre de malnutrition chronique, parmi lesquelles 200 millions d'enfants. En outre, 57 millions d'enfants ne sont pas scolarisés. Il convient de pallier à cela de façon urgente. Nous devons également nous pencher avec une attention particulière sur la qualité de l'éducation de façon à produire une génération de citoyens dans le monde qui soit en mesure de s'attaquer aux difficultés de l'avenir. À cette fin, Guyana appuie l'initiative de l'éducation en premier du secrétaire général comme instrument de solution significative pour traiter des difficultés d'accès et de qualité en matière d'éducation. Si nous voulons, Monsieur le Président, faire du monde un endroit meilleur pour tout un chacun, il faut que nous nous attelions à la question des inégalités. La répartition des revenus continue d'être en faveur des nations riches et des personnes riches dans les pays. Ce fossé continue de s'élargir. Point n'est besoin de dire que l'inégalité conduit à un mécontentement profond et à des troubles sociaux. Au cœur de nombreux conflits, que voyons-nous aujourd'hui? Nous voyons se creuser le fossé entre les nantis et les démunis. Parfois, cela ne se voit pas vraiment, car souvent, la lutte pour la justice économique et sociale est obscurcies de conflits interethniques, interreligieux et autres, pour défendre les gains réalisés et pour avancer, il convient que les Nations Unies se concentrent sur la nécessité de combler ces lacunes en matière de revenus, l'accès aux services sociaux, l'infrastructure, la répartition de la terre et d'autres domaines critiques. S'il y a une leçon à tirer des efforts déployés pour parvenir à la mise en œuvre des objectifs millénaires pour le développement, c'est qu'en traitant de l'inégalité, c'est là l'élément crucial pour parvenir à la mise en œuvre des objectifs de développement durable. L'approche adoptée par la résolution des Nations Unies pour un nouvel ordre humain mondial demeure pertinent dans la lutte pour éradiquer la pauvreté et l'inégalité et dans le cadre du programme du développement pour l'après 2015. Monsieur le Président, en campant le décor pour le programme de l'après 2015, nous devons rebondir sur les gains acquis. À cette fin, nous devons créer un environnement international propice à la mise en œuvre des objectifs que nous nous fixerons pour l'avenir. Au cœur de nos efforts, nous devons avoir la paix mondiale, car la paix et le développement sont inséparables. L'on ne pourra mettre en œuvre la paix que si le droit international et les droits des nations, leur souveraineté, sont respectés toujours et maintenus. C'est à cet égard que je souhaiterais jeter un regard sur la situation au Moyen-Orient. À l'heure actuelle, la Syrie est au cœur de nos préoccupations collectives. La guerre dans cette nation sœur a ôté la vie à des milliers d'innocents. Il est illusoire de croire que l'intervention militaire apportera la paix dans ce pays. Ce dont ils ont absolument besoin, c'est d'un dialogue politique entre les parties en Syrie. La communauté internationale a également un rôle important à jouer. Nous nous félicitons de l'accord entre la Russie et les États-Unis qui facilitera la destruction des armes chimiques en Syrie. Nous comptons sur tous les pays qui possèdent cette arme de faire de même. Nous espérons également qu'il y aura un retrait des forces terroristes qui opèrent en Syrie, car il ne saurait y avoir de terroristes quand il y a lutte en Afghanistan, en Irak, mais des combattants de la liberté lorsque ils luttent contre le gouvernement syrien. Non, un terroriste reste un terroriste. De même, permettez-moi que la gifle, c'est une gifle à la démocratie, lorsque l'on a assisté à un coup en Égypte. Toutefois, les puissances mondiales, au lieu de condamner le recours à de tels moyens pour changer de gouvernement, ont choisi le silence, ce qui est un appui tacite au coup d'État qui a conduit à la violation des droits de l'homme et la perte en vie humaine et pourra continuer à d'autres protestations, d'autres violences, d'autres morts. Toutefois, il importe que le peuple de ce grand pays et ses dirigeants, indépendamment de la persuasion politique, trouvent une voie pacifique aux difficultés présentes. De plus, la paix au Moyen-Orient ne saurait être réalisée avant que nous n'ayons une solution juste à la tragédie palestinienne. Le peuple palestinien a le droit à son propre pays. Nous les appuyons dans leur quête pour le droit à vivre en paix dans un État indépendant et dans une Palestine viable. Monsieur le Président, pour en venir à notre propre région, permettez-moi de souligner que les sanctions contre notre pays voisin des Caraïbes, Cuba, a entraîné une grave atteinte à l'économie de ce pays et continue d'être un obstacle majeur au développement. Nous nous joignons à l'appel pour supprimer ces sanctions et alléger le fardeau que cela fait peser sur son peuple. Monsieur le Président, l'adoption en avril cette année du traité sur les armes, le commerce des armes, ouvre la voie à une réglementation effective du commerce international des armes conventionnelles. Pour nous, dans les Caraïbes, ce traité est pertinent, non seulement pour la sûreté et la sécurité de nos citoyens, mais pour la lutte contre le crime transnationale et c'est une manière de poursuivre le développement durable. L'acheminement des armes dans nos sociétés est une menace qui doit être éliminée de façon à préserver nos jeunes et notre avenir. Étant l'un des premiers pays à avoir ratifié le traité, Guyana lance un appel pressant à tous les États afin d'œuvrer pour qu'il entre en vigueur très rapidement. La paix est vitale pour le développement et permettez-moi de m'empresser d'ajouter que le progrès social et économique allié à la démocratie sont cruciaux pour le maintien de la paix. Au cœur de ces principes, nous avons nos peuples. Ils sont le facteur le plus important du développement et c'est la raison pour laquelle mon pays a investi et ce de plus en plus dans le développement de notre peuple. En examinant notre budget national, vous constaterez que quelque 30% de nos dépenses vont au secteur social. En conséquence, nous avons réussi à mettre en œuvre plusieurs des OMD bien avant le délai prévu. Nous avons réalisé l'éducation primaire universelle et sommes prêts de réaliser l'éducation secondaire universelle. Nous avons également réduit de plus de la moitié la pauvreté. De plus, conformément à la FAO, nous sommes l'un des rares pays dans le monde qui non seulement a réduit la pauvreté, mais a également amélioré la nutrition. Excellence, l'éradication de la pauvreté et la promotion du développement durable doivent devenir le principe et l'objectif clé de toute gouvernance économique mondiale et un principe directeur des mesures prises par les institutions financières internationales et de commerce. Alors que je parle de ces succès, je manquerais à mes devoirs si je n'insistais pas sur les difficultés importantes auxquelles nous sommes heurtés, même en essayant de nous appuyer sur les fondements existants. Dans les Caraïbes, nous avons connu beaucoup de conséquences négatives en raison des crises économiques et financières internationales qui ont commencé en Amérique du Nord et en Europe. Alors qu'il semblerait que les deux régions émergent des crises, dans les Caraïbes, les effets demeurent dévastateurs. Même en continuant à nous atteler aux effets de la crise des crises financières, nous sommes confrontés aujourd'hui à la graduation et la différenciation imposée par certains de nos partenaires internationaux. L'on nous dit qu'en tant que pays à moyen revenu, mesuré en PNB par habitant, nous n'avons plus droit à un financement assorti de concessions. C'est une recette pour inverser les gains réalisés grâce à un dur labeur et beaucoup de sacrifices. Nous lançons un appel afin que l'on révise cette position et prions instamment que l'on se penche de façon plus approfondie aux vulnérabilités particulières de notre région où un pays peut voir un ouragan effacer tout son PNB. Ou bien où 60% de notre PIB a été effacé par les inondations. De toute évidence, ce dont nous avons besoin, c'est d'une coopération accrue avec la communauté internationale et nos partenaires de développement, et pas moins. Autre difficulté importante du développement durable, il s'agit de l'impact du changement climatique. Et d'autant plus pour les petits pays insulaires représentés à cette assemblée, dont certains sont confrontés à un passage imminent à l'oubli. Le changement climatique ne vient pas de nous, mais malheureusement, en tant que petit État insulaire et État côtier, nous demeurons victimes de ces incidences les plus négative. Malheureusement, au lieu d'une réduction, nous avons assisté à une augmentation de près de 50% des gaz à effet de serre. Ceci marque l'échec des mesures décisives qui posent une menace à l'ensemble de l'humanité. Il est tragique de constater qu'alors que nous connaissons les dangers du réchauffement climatique et du changement climatique, nous semblons incapables de nous arrêter. nous nous félicitons de l'initiative du secrétaire général de convoquer un sommet sur le changement climatique et nous espérons que l'on aboutira à un fort consensus politique pour s'atteler à cette difficulté de notre époque. Nous nous félicitons de l'observation en 2014 de l'année internationale des petits États insulaires en développement et lançons un appel à la communauté internationale de saisir cette occasion pour adopter une approche approfondie pour venir en aide aux petits États insulaires en développement et notamment en ce qui concerne le renforcement de la résilience et la gestion des risques des catastrophes. À cette fin, il convient de créer un fonds spécial qui doit être facilement accessible. Monsieur le Président, en élaborant le programme de développement de l'après 2015, nous estimons que nous devrions renforcer nos efforts pour éradiquer la pauvreté. Les Nations Unies ne doivent pas permettre que cet objectif se perde dans les nombreuses autres exigences qui existent. Les Nations Unies ont un rôle à jouer pour garantir que les pays en développement les plus pauvres et les plus petits ne soient pas désavantagés au niveau du discours et des mesures économiques internationales. Il est d'une importance critique que cette instance poursuive et encourage des approches multilatérales pour résoudre les problèmes internationaux et mondiaux. L'expérience a montré que même lente, l'approche multilatérale est souvent la seule qui puisse conduire à une paix durable, à la démocratie et à la justice dans le monde. Je vous remercie de votre attention.